Cette lutte anticoloniale que le Mali a commencée depuis quelques mois montre chaque jour une nouvelle dimension et le Mali montre qu'il a plus d'un tour à jouer. Cette lutte a commencé par le volet militaire, dans lequel le Mali a non seulement rompu tous les accords militaires avec la France, mais a également interdit tout vol aérien à travers son ciel. Mais ce n'est pas tout, car le Mali a ouvert de nouveaux horizons dans le pays, en signant des accords avec des pays comme la Russie, l'Iran et l'Algérie, en prouvant ainsi que c'est le gouvernement et le peuple qui choisissent les partenaires et non pas le contraire. Un autre volet de cette lutte s'agissait du volet économique où, malgré les sanctions imposées par la CEDEAO et l'UMOA, deux instances à l'apparence africaine mais à la solde de l'Occident, le Mali a renforcé ses liens avec ses voisins dont le Sénégal et la Guinée et a tellement bien géré cette période qu'en fin de compte, ces mêmes instances occidentales ont été poussées à lever ces sanctions et à avouer leur impuissance face à cette coalition interafricaine et Mali Axe de l'Est qui a prouvé qu'elle a plus d'un tour dans son sac. Un volet politique s'est ensuite ouvert dans lequel le Mali a totalement expulsé Barkhane et Sy de son territoire, a repris le contrôle de tous ses territoires et, dans son dernier coup de force anti-France, demandait une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU afin de faire traîner la France devant la justice pour ses crimes de guerre contre le Mali, ses vols illégaux sur le territoire et ses bombardements à coups de Mirage 2000 contre son peuple. Cette lutte n'en reste pas là puisque le volet minier vient de faire son apparition. Jusque-là, troisième pays producteur de l'or en Afrique et disposant selon certaines sources d'un potentiel pétrogazier, estimé à environ 73% de l'ensemble de son territoire, le Mali veut davantage tirer profit de son secteur minier. En effet, les autorités de la transition ont approuvé ce 24 août en Conseil des ministres la création de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. Cette société à capitaux 100% publics va assurer la recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales dans les limites des périmètres définis. Il va en outre procéder à des levées de fonds et sera habité à acquérir des titres miniers en plus de générer des devises pour l'État et de nombreux emplois. Selon les explications de Lamine Seydou Traoré, ministre malien en charge des mines, de l'énergie et de l'eau, dans le journal de 20h sur les antennes de la télévision nationale, il s'agit de permettre à l'État de participer pleinement à la création de la valeur le plus rapidement possible et dans les règles de l'art. En mettant en place cette nouvelle entité, les autorités actuelles de la transition souhaitent que l'or brille davantage par tous les Maliens et que les autres ressources minérales, à savoir le pétrole, le gaz, le fer, l'uranium, le calcaire, l'hydrogène naturel encore inexploité, puissent l'être dans les meilleures conditions. Soulignons qu'en 2021, la production malienne d'or est ressortie à 65 tonnes, représentant 70% des exportations du pays, 25% des recettes fiscales, 10% du PIB et a rapporté plus de 500 milliards francs CFA au budget de l'État. Les pilleurs des ressources maliennes sont désormais expulsés et les mines maliennes totalement entre les mains des sociétés nationales. La force colonialiste n'est apparemment pas au bout de ses surprises. Le Mali n'est pas prêt à lâcher du lest face à une colonisation qui l'a étouffé dans tous les sens depuis plusieurs années. C'est bien significatif, il fut un temps où la Zoom Afrique ne faisait hélas que le décompte des morts civiles militaires africains dans ces attaques terroristes qui touchent le Sahel, voire la côte, en passant par le centre du continent africain, faisaient le bonheur des RFI France 24 et tous les autres officines médiatiques colonialistes, car c'était à travers ces morts que la France et autres puissances néocoloniales trouveraient la raison de la poursuite de l'occupation des pays entiers en Afrique. C'était à l'époque où l'occupation militaire se nourrissait du djihadisme parce que les peuples du Sahel n'avaient pas encore découvert l'ampleur de l'imposture et le fait que ces terroristes ne sont que des agents des services secrets occidentaux infiltrés au cœur de l'Afrique à l'effet de la vampiriser et d'en causer la récolonisation. Mais cette époque est révolue et en est le signe la forme que prend l'ingérence France-Occident en Afrique, une forme bien soft qui reste néanmoins le symptomatique d'un affaiblissement chronique. À lire l'édition de ce dimanche du RFI, trois manifs anti-État se sont déroulés au Burkina, en Centrafrique et en Guinée. Il s'agit des pays où le pouvoir s'oppose directement à l'ordre colonial. au Burkina Faso, alors que les médias mainstream de dire que les manifestations sont une preuve du mécontentement du peuple de la junte, il s'agirait là d'une dénonciation de l'incapacité de cette junte qui s'est trop appuyée sur la force d'occupation et bien sûr, il s'agit de la dénonciation de cette force colonialiste qui, désemparée au Mali mais plus que jamais, sur un redéploiement au Burkina et au Niger. Cette vague anticolonialiste a commencé au Mali, mais s'est étendue désormais dans plusieurs pays africains. Il n'est plus question de savoir, oui ou non, les pays africains acceptent la présence occidentale. Il est désormais question de faire expulser sans aucune question préalable toute force interventionniste de ce continent. Que ce soit au Sahel, en Afrique centrale ou en Afrique australe, l'exigence est la même. La fin de la présence colonialiste est le début d'une nouvelle ère de souverainisme. À Madagascar, la Cour de cassation a rejeté vendredi 26 août le pourvoi des principaux accusés dans l'affaire Apollo 21, une affaire dans laquelle deux Français ont été condamnés respectivement à 20 ans et 10 ans de travaux forcés pour tentative de coup d'État et tentative d'assassinat du président de la République à Madagascar. Les avocats des accusés avaient demandé en juillet dernier l'annulation des condamnations. Ce rejet de la Cour de cassation confirme les peines des deux Français. Comment peut-on analyser cette implication occidentale dans des coups d'État en Afrique? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
Tout d'abord, il faut dire quelque chose sur le procès de Madagascar. Ça, c'est une anecdote. En réalité, le gouvernement de Madagascar venait tout juste de conclure des accords militaires avec la marine iranienne qui ouvre les ports de Madagascar. Immédiatement, il y a eu cette tentative de coup d'État mené par des Français du firme de sécurité, un ancien lieutenant-colonel français et des personnalités politiques de Madagascar. Les Français crient évidemment que c'est un complot et rien du tout, mais la justice de Madagascar, elle a été impitoyable avec les comploteurs. Maintenant, c'est une tradition des Français, l'utilisation de mercenaires et la participation de coups d'État. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle « Les tueurs de la République » qui explique comment les Français ont contribué à des dizaines de coups d'État à assassiner plus de 52 présidents et premiers ministres africains et ont même participé à des opérations terroristes. Il y a particulièrement le cas de votre ambassade au Liban en 1986 qui a été que les Français de Mitterrand ont tenté de faire exploser la dynamite à Beyrouth. Maintenant, le visage du mercenariat a beaucoup changé. Au début des années 60, c'était des gens qui étaient employés directement par le fameux Focard et le Quai d'Orsay, et c'était des soldats perdus des armées occidentales. Le plus fameux d'entre eux est le célèbre Bob Denard qui s'intitulait le corsaire de la République et qui a participé à de nombreux coups d'État. Depuis le Congo du début des années 60 et la sécession du Biafra, il était encore actif dans les années 1980 dans des coups d'État français aux Comores. Maintenant, à partir des années 90, le visage de tout cela change. Les Américains décident la privatisation de la guerre et créent une série de firmes privées qu'on appelle des contractuels dans l'armée américaine, des firmes privées de mercenaires dirigées par d'anciens officiers supérieurs et d'anciens généraux américains. Les Français et les Britanniques vont suivre en créant eux aussi leurs firmes de sécurité, comme on les appelle, et en faisant des coups d'État. Il y a un an, il y a eu la tentative de coup d'État en Centrafrique menée par un mercenaire français, Jean-Rémy Guignolo, qui était proche d'une firme Power Security située près de Lille en France. Et il avait participé également pour les Français à des missions au Mali. Il y a actuellement des bandes de mercenaires qui évoluent entre les frontières de la Libye et les frontières de la Guinée équatoriale. Ce sont des anciens soldats déserteurs des armées tchadiennes et soudanaises, ce sont donc des Africains déserteurs, et actuellement il y a une interface pour tout cela, pour employer un terme d'informatique, c'est le général centrafricain Bozizé qui sert d'intermédiaire entre les Français et ces firmes de mercenaires. Ils ont en particulier fait une tentative de coup d'État en 2017, financée par des pétroliers français, qui visaient à assassiner le président équato-guinéen Obiang Nguema Mbasozo dans sa résidence du continent à Mongomo, près de la frontière donc, du Gabon et du Cameroun. Ils ont été arrêtés par les services secrets tchadiens, camerounais et équato-guinéens et condamnés dans deux procès à Yaoundé et à Malabo. Ce qu'il faut savoir, c'est que de nouveau, les Français actuellement, avec ces bandes de mercenaires, complotent pour une prochaine tentative de déstabilisation de la Guinée équatoriale et de coup d'État à l'occasion des élections présidentielles de 2023 l'année prochaine. Le cas de Madagascar, évidemment, il correspond directement à un dossier dont les Occidentaux ne voulaient pas. Il faut savoir que le contrôle de l'océan Indien est une position importante pour les Français qui sont présents particulièrement à Mayotte, qui est une possession française, et militairement dans l'archipel des Comores, qui est une ancienne colonie française. Les Français sont donc opposés à la présence des Chinois, des Russes et des Iraniens. Ils viennent en particulier. En 2019, Macron a fait une visite en Inde et il avait fait des accords militaires qui ouvraient les ports militaires français à la flotte indienne. Mais les Indiens sont en train de se retourner géopolitiquement. À l'occasion du dossier ukrainien, ils sont en train de se tourner vers le bloc de l'Est et en particulier vers la Russie. Et les Français sont donc en train de perdre leurs partenaires. Ils ne peuvent donc pas accepter l'arrivée des Iraniens à l'entrée de l'océan Indien, à l'entrée de la mer Rouge et dans le golfe de Guinée. C'est tout ce climat qui explique l'utilisation par la France de mercenaires depuis 60 ans, les tentatives de coup d'État, les assassinats de chefs d'État. En réalité, les Français sont un véritable État voyou tel que les Américains prétendaient les dénoncer sous Ronald Reagan.
Entre la Zambie et le Qatar, un accord sur le transport aérien a été signé. La nouvelle convention permettra à Qatar Airways d'augmenter la fréquence de ses vols directs entre Doha et Lusaka. L'accord, qui a été signé mardi à Doha par le ministre zambien des Transports, Frank Museba Tayali, et le ministre qatari des Transports, Jassim Seif Ahmed Al-Sulaiti, prévoit le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine du transport aérien ouvert, selon APA News. Dans un communiqué, le Qatar a déclaré que l'accord s'inscrit dans le cadre de la liaison du Qatar avec des accords de services aériens qui ouvrent la voie au transporteur national pour étendre son réseau de destinations afin d'atteindre davantage de destinations mondiales. Qatar Airways a déjà des vols directs vers la capitale zambienne Lusaka et l'accord verrait la compagnie aérienne du Moyen-Orient augmenter la fréquence de ses vols. Les deux ministres ont également passé en revue les relations bilatérales entre les pays dans les domaines des services de transport et de l'aviation civile. Des organisations de la société civile sénégalaise ont appelé vendredi le président de l'Union africaine à s'impliquer pour une résolution de la crise qui secoue la Guinée-Conakry. L'antenne du Front national pour la défense de la Constitution au Sénégal et 6 organisations de la société civile sénégalaise, dont le mouvement Jeune Amar et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, ont animé un point de presse à Dakar. C'est une situation qui peut aboutir au chaos et le chaos en Guinée. C'est le chaos en Afrique de l'Ouest. Il est temps aujourd'hui, par rapport à cette situation extrêmement difficile, que le président de l'UA, Macky Sall, prenne ses responsabilités pour Conakry afin de parler aux autorités de la transition et leur dire que la voie qui a été prise n'est pas bonne, indiqué Ali Ountine, fondateur du think tank Africa Jump Center. Dans la déclaration commune ayant sanctionné la rencontre, les organisations de la société civile sénégalaise malaise et l'antenne du FNDC ont décrié la conduite unilatérale de la transition et l'absence de perspectives claires pour un rapide retour à l'ordre constitutionnel. Jugeant certains de ses collaborateurs inefficaces, le président congolais souhaite effectuer dans les prochaines semaines des changements très stratégiques au sein des différentes sphères du pouvoir. À moins de 2 ans de l'élection présidentielle, prévue fin décembre 2023, Félix Tshisekedi s'apprête à recomposer ses équipes afin de s'assurer des résultats positifs dans tous les domaines, selon l'une de ses proches conseillers. Dans les rangs des forces de sécurité, il souhaite ainsi limoger Jean-Hervé Beloubioucha, l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, dont l'efficacité est remise en question depuis l'affaire François Béa. Le président estime que le travail a été bâclé, poursuit le source. Aujourd'hui, plusieurs pays, y compris des voisins, ne souhaitent plus collaborer avec l'ANR ou le Conseil national de sécurité. Plusieurs noms de successeurs potentiels circulent déjà. L'Ouganda présente un taux d'accès à Internet assez avancé. Cependant, les tarifs liés à l'Internet sont encore élevés, ce qui rend difficile l'accessibilité par toutes les couches sociales. Le gouvernement ougandais envisage de réduire les coûts de l'Internet dans le pays d'ici la fin de l'année. L'objectif visé par cette initiative est de promouvoir l'utilisation des services financiers numériques et d'accroître l'inclusion financière des groupes vulnérables. Selon Chris Baryomunsi, ministre des TIC et de l'Orientation nationale, le pays va réduire de plus de moitié le coût des données qu'il fournit par le biais de la fibre de l'infrastructure dorsale nationale, le faisant passer de $70 par mégabyte à $30. La réduction des coûts d'Internet permettra de soutenir la croissance des innovations dans le domaine des TIC, des services financiers numériques, de la communication et des services administratifs en ligne, entre autres.